Nous revoilà pour la suite et la conclusion de notre entrevue aujourd'hui avec Stéphane Larouche, entraîneur de boxe. Stéphane, donc, tu as dit avec beaucoup de conviction tout à l'heure, puis avec une certaine étincelle dans tes yeux, que tu penses vraiment que tu vas revivre des gros combats de championnat du monde parce que t'as des gars que t'entraînes en ce moment que tu vois, là, t'es vois grimper, t'es vois arriver au sommet. Oui? Vraiment?
Oh, absolument, absolument. J'ai,
Tu vois-tu ça quand il rentre dans le gymnase le premier jour ou ça prend du temps avant de dire, lui, c'était bon?
On le voit assez rapidement, c'est une qualité musculaire, c'est une habileté, t'es dans une classe à part, là. Quand tu regardes du hockey, toi, t'es spécialiste de hockey, là, tu vois sur la glace quand Crosby a rondelle qui est différent des autres. C'est un peu ça, là. Nous, dans le ring, le gars, comment il se comporte, comment il lance ses coups de poing, ses esquives, la vigueur de ses mouvements, son étincelle, sa hargne.
Tu penses à qui?
Ah, Batir Djoukembaev, que j'ai présentement, c'est vraiment un beau, beau joyau. Là. Il est vif, il est précis, il est intense, il est heureux, il est content de frapper quelqu'un, il est mine, il est méchant. Là. Ça prend ça. Éric Bazignan, un gars qui a un beau potentiel, ça fait juste quelques mois que je travaille avec lui, mais des belles qualités de boxeur, puis il est beau à regarder sur un ring. Il est beau comme un peu Stéphane Ouellet l'a été, il est beau comme Dave Hilton l'a été. Puis ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Là. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, t'as de la misère à arrêter de le regarder boxer. Bazignan, il est un peu de même, Éric. Puis on va vivre encore quelque chose de le fun. Si jamais le retour de Jean-Pascal a lieu, on en parle beaucoup, mais ça peut être quelque chose de bien, bien le fun aussi. Jean-Pascal nous fait vivre des beaux moments. En Floride, là, ça a été un autre moment fort là, où tu te bats dans l'adversité, t'es pas supposé gagner, tout le monde pense que tu vas perdre. Puis tu fais une surprise comme il l'a fait à un jeune homme solide, invaincu, qui devait juste se servir du nom de Jean-Pascal pour mettre à sa fiche. Ça a été des beaux moments dans l'adversité.
C'était une belle motivation. Es-tu content qu'il revienne pour un autre combat potentiellement là, contre Steve Bossé, toi qui travailles avec Jean maintenant, là, je veux dire, où tu pensais vraiment que c'était fini ou tu te doutais qu'il y en aurait un autre peut-être ici en sol québécois? Puis est-ce que c'est le bon adversaire, Bossé?
Moi, ce que je dis, c'est peu importe qui sera l'adversaire, Jean-Pascal, je veux que tu sois dans le gym. Moi, je veux pas des gars qui arrivent à la dernière minute puis on fait du rattrapage. Tu peux pas faire de rattrapage dans la préparation. Tu peux pas. Une équipe ou un boxeur qui est prêt, c'est parce qu'il fait longtemps qu'il est dans le gym, mais des affaires de faire quelque chose de vite en 3 semaines, ça se fait pas. Et Jean est dans le gymnase depuis janvier. Alors, ils ont proposé un paquet d'affaires. Là. Ils ont proposé des rematchs avec des gars. Oui, Steve Bossé est apparu. J'ai l'impression que ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça semble excitant pour monsieur et madame tout le monde. Un peu comme l'était là, McGregor avec Floyd Mayweather à plus petite échelle, évidemment. Mais je n'entends parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens me posent des questions. Est-ce que ça va avoir lieu? C'est rare que les gens s'intéressent beaucoup à quelque chose comme celui-là. Là. Dernièrement, je me suis fait pas souvent poser autant de questions que dans le cas de Bossé Pascal.
Est-ce que tu le ferais si... Je sais que c'était peut-être juste une blague là ou une boutade sur Twitter, genre diffuser une photo de lui et Luciano en disant qu'est-ce qu'on mijote un bouté Pascal 2, mais dans le coin de Jean cette fois-là contre Luciano, t'imagines-tu vivre ça? Vois-tu de la pertinence que ça arrive ou non?
Non, vraiment pas. Moi, j'espère que non, en tout cas. Je souhaite de tout cœur que ça n'aura pas lieu.
OK. Fait que t'as pas trop d'ambition de ce côté-là.
Non.
Plutôt dans l'entrevue, Stéphane, je pense que c'est dans le premier segment, t'as fait allusion au fait que, ben, il y a des requins qui sont potentiellement un monde de requins. Il y en a partout des requins, mais dans le monde de la boxe, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ça prend la forme de quoi un requin dans le monde de la boxe?
Ça peut être un mauvais combat. Ça peut être un mauvais téléphone, quelqu'un qui te fait une promesse qui va pas tenir sa parole. Ça peut être un changement de direction. Ça peut être un paquet de facteurs. Mais des fois...
Ils veulent quoi, les requins? Faire des sous?
Évidemment, l'objectif ultime est de faire de l'argent, mais aujourd'hui, c'est pas tout le monde. Il y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter de faire de l'argent avec la boxe. Ça prend une grosse machine. Puis surtout, c'est que ça prend quelqu'un qui a les moyens d'en perdre. Fait que quand t'as les moyens d'en perdre, ça veut dire que t'es capable d'engager des bons avocats. T'es capable de structurer ton affaire solidement pour que tes contrats soient bien faits, que tes athlètes soient heureux. Quand des athlètes sont heureux, sont bien traités, même s'il y a des requins qui traînent alentour, il n'y a pas de danger parce qu'ils savent qu'ils sont bien traités. Puis ça, c'est probablement la plus belle police d'assurance pour les boxeurs. Et c'est le fun pour l'entraîneur qui le côtoie parce que ton boxeur, il est bien, il est chez lui, il est heureux, il a un contrat qui est valide, qui est fort. Il sait qu'il va avoir son nombre de combats. Il va avoir un revenu garanti par rapport à ça. Il peut payer ses comptes. Puis un boxeur qui a ça, ben, il n'y a rien qu'à se concentrer sur se préparer. Puis c'est quoi mes objectifs à moyen et à long terme?
As-tu vu bien des choses pas correctes en boxe?
Pas vraiment. J'ai vu quelques petites affaires, mais pas des... Tu sais, je te donne un exemple. Carl Handy, qui est entraîneur chez nous, il boxait pour nous à un moment donné. Puis j'avais dit, Carl, j'ai eu 2-3 appels. Tu pourras aller te battre à Dubaï. Il y a un prince là-bas qui organise un gala de boxe avec un monsieur de la Floride. Puis ce qu'il nous propose comme combat, je pense que tu peux gagner, mais il faut que tu sois en forme. Alors, Carl s'est préparé. C'est vraiment bien préparé. T'es arrivé là-bas, puis juste avant le combat, il y a quelqu'un qui est allé le voir, il a dit, je double ta bourse si tu te couches. Carl, il a dit, j'ai-tu bien compris? Tu me dis, tu doubles ma bourse si je me couche? Ben, il dit, puis il avait le chèque dans ses mains. Là. Il dit, gars, tu peux prendre ça, je te le donne direct là. Carl, il a pris le chèque dans ses mains avec ses gants de boxe. Il l'a déchiré. Il dit, over my dead body. Alors, il est allé se battre, mais tu sais, si lui a eu cette offre-là à cet endroit-là, c'est peut-être arrivé ailleurs. Mais au Québec comme tel, moi, honnêtement, j'ai vraiment rien vu. Non, pas rien qui, selon moi, pourrait mettre en doute la crédibilité de ce sport-là. Mais il y en a sûrement à différents endroits.
Est-ce que les promoteurs... ça doit être difficile d'être promoteur, tu l'as dit, puis on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'argent à faire. Ça prend pas mal d'argent pour soutenir des pertes, pour peut-être, à un moment donné, monnayer un jour dans une grande opportunité des combats de championnat du monde. Là. Mais est-ce que, généralement, les promoteurs ont du mal... Ça semble tellement difficile d'organiser des combats hein, avec régularité. Il y a tellement d'impondérables. Un tel, c'est un visa, un ci, un ça. On connaît pas l'identité de l'adversaire. On regarde des vidéos, mais... Les promoteurs ont-ils de la misère à livrer leurs promesses?
Ben, c'est normal. C'est 10 fois plus dur faire de la boxe au Québec que ça peut l'être aux États-Unis. Écoute, le boxeur qui fait de la boxe aux États-Unis, en Californie, il y a...
Tout le monde est là.
Puis il n'y a pas de frontières. T'as pas besoin d'avoir un passeport. Tu peux prendre l'avion, ça coûte pas cher. T'as besoin d'un permis de conduire, prendre l'avion, une carte avec une photo. T'as pas besoin de visa. Puis il y a beaucoup de boxeurs. Puis il y a des bons boxeurs, donc ça te permet de faire de la boxe de qualité. Nous, à dernière minute, là, quand Camille reçoit un appel, puis le gars n'a pas passé l'immigration, le gars n'a pas eu son visa ou le gars est malade, l'hépatite ou peu importe, ou passe pas son test sanguin, t'as 3 jours pour te virer de bord. Puis dans 3 jours, t'as pas un gros pouvoir de négociation. On sait que c'est de l'autre bord. Là. Donc, c'est pas évident. Puis Yvon Michel vit la même chose avec sa compagnie. Tous les promoteurs vivent la même chose. Rixa, lorsqu'ils font leur boxe, c'est la même chose. Tous les promoteurs vivent ça. Puis c'est faire de la boxe au Québec... C'est extrêmement courageux, c'est le fun, c'est excitant, mais ça prend beaucoup, beaucoup de ressources financières.
Quelques questions à rafale en conclusion d'entrevue. As-tu déjà vécu quelque chose qui t'a révolté dans le monde de la boxe? Peu importe la nature de ce que tu as vécu, une mauvaise décision parfois ou de quelque chose en coulisses?
Éric Lucas en Allemagne, j'étais plus jeune, j'étais probablement un peu rêveur. J'avais jamais vécu une grande tristesse de même, là. Ça m'avait fait mal. De voir que Bayer, il avait sa ceinture sur ses épaules dans l'autre bord du ring. Puis quand je suis sorti du ring, j'étais prêt à insulter tout le monde. Je disais aux promoteurs, vous êtes des tricheurs, vous êtes contents de gagner comme ça. Tu sais, j'avais beurré et pain en masse. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment pas juste, vraiment injuste de faire ça. Mais finalement, ça arrive très, très souvent.
Oui. Est-ce qu'il y a un boxeur, peu importe en quelle année il a boxé, peut-être que c'est un boxeur actuel ou d'une autre époque, à qui tu voues une grande admiration?
Il y en a plusieurs. On est choyé. Dans les dernières années, la télévision nous a fait voir des choses qu'on ne pouvait pas voir dans le temps. On peut voir les meilleurs boxeurs à tout moment. On a accès à Internet. Mais techniquement parlant, Dave Hilton était quelque chose de beau à voir aller au Québec. C'était beau, là. C'était... Tu sais, la perfection dans un ring, là. C'était beau. Après ça, on a eu l'ère de Roy Jones, où lui aussi, ce qu'il faisait dans le ring, c'était comme le rêve de tout entraîneur, là, de pouvoir faire n'importe quoi dans un ring. Évidemment, il y en a plein, plein. C'est une question de style, c'est une question de qu'est-ce que t'aimes comme style.
Mm-hmm.
Mais la pureté du combat, là, la pureté du coup de poing, de comment tu te déplaces, comment tu peux être gracieux, être bon, être félin, être méchant, puis être mine. Ça, Dave Hilton nous l'a fait vivre, en tout cas, à mon avis. Malheureusement, il n'y avait pas peut-être la capacité psychologique. Tu sais, parce que c'est difficile de vivre ça puis de pouvoir le supporter en haut de tes épaules pendant des années. Là. Tu sais, là, on se rend compte qu'aujourd'hui, Dave était un grand, grand boxeur, mais il n'était pas fait pour être un grand champion du monde. Mais il nous a donné des flashs de ça. Là. Il nous a fait vivre des étincelles, des highlights de ça. Roy Jones a été dominant, extrêmement dominant. Puis même si c'était tellement dominant que c'en était plate, là. Le monde le blâmait de se battre contre personne, mais il s'est battu avec tout le monde. Il a tout battu jusqu'à chez les poids lourds. C'est impressionnant, là. Le prochain boxeur qui va faire ça, c'est assez rare.
J'espère que tu vas vivre une autre grosse vague avec un Jukem Baïev puis des championnats du monde, mais celui avec qui tu l'as vécu le plus longtemps, c'est avec Lucian Bouté. Et je me rappelle encore au moment où, bon, toi, tu pensais que c'était probablement terminé pour Lucian et tu souhaitais pas être à ses côtés s'il revenait sur le ring. Est-ce que le processus de j'appelle ça un processus de séparation, là, c'était pas un couple, mais en quelque sorte, vous étiez un duo, une équipe. As-tu trouvé ça difficile à vivre, même si c'est ça qui devait arriver? Tu sais, veux, veux pas, là, ça... Y'a-tu quoi qui fait mal en dedans de vivre ça, de se séparer d'un gars avec qui tu as eu autant de succès?
Oh oui, il y a un petit... L'entraîneur qui va dire que ça fait pas mal du tout. Tu sais, quand tu vois les premiers reportages avec son nouvel entraîneur, ça fait un petit quelque chose. C'est clair, écoute, moi, c'est comme mon fils. Là. Je l'ai eu, j'ai ouvert son compte de banque avec lui, on a loué son appartement. Tu sais, ça a été... Je l'ai côtoyé, là. Je connais de A à Z, puis de savoir, tu sais, qu'il va continuer, mais pas avec toi... Ça, tu l'avais pas imaginé. Là. Ça, dans ta carrière, tu l'as pas imaginé. Tu penses que tu vas commencer ensemble, puis tu vas finir ensemble. Surtout qu'on se l'était dit. Lucien a dit, Steph, moi, je suis pas le genre de gars qui change d'entraîneur. Adrien Diaconou nous avait dit la même affaire. Moi, je vais pas changer d'entraîneur. Mais à un moment donné, il y a un point de que t'as pas vu venir. Puis oui, ça fait mal, mais on peut s'en remettre. Puis après ça, ben quand tu as une belle relation avec le boxeur, comme moi, j'ai eu avec Lucien, tu lui souhaites vraiment du bonheur parce qu'il mérite juste ça. Il y a des entraîneurs, peut-être, qui souhaiteraient qu'il s'en fâche parce qu'il a changé d'entraîneur, mais. C'était pas mon cas. Moi, j'y souhaitais tout le temps le meilleur, même si les défis à relever étaient extrêmement difficiles.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'il a fait après votre association dans les combats supplémentaires qu'il a livrés avec un autre entraîneur?
Ben, il a bien fait. Écoute, il a lancé gros des coups de poing. Il est devenu comme un volume puncher avec un peu moins de puissance, mais il a surpris avec De Gale, il a surpris avec Badou Jack. C'était des bons boxeurs, des très, très bons boxeurs. Avec Alvarez, malheureusement, ça s'est pas bien passé, mais jusqu'à temps qu'il se fasse knocker, il était quand même dans le combat.
Ah, tu as été surpris qu'il puisse ressortir ça de lui alors que tu pensais peut-être que c'était quelque chose de plus possible? Tu parlais peut-être même d'un blocage à un certain moment donné?
Oui, ils ont fait les frères Grant ont fait du bon travail avec Lucien. Ils l'ont ramené sur une base de gars, c'est positif, lance des coups de poing, casse-toi pas la tête, puis lance des coups de poing, puis ça a marché pour Lucien.
Ouais. Ton rêve, est-ce qu'il t'en reste un ou t'as tout vécu?
Ah, il en reste plein, voyons, il reste plein de rêves à vivre. Là. Mettre un champion unifié, avoir un champion olympique amateur de notre gymnase ou une championne du monde féminin, on en a plein de choses à vivre encore.
Stéphane, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous en studio. Je te dis bonne chance dans la poursuite de tes autres rêves et à très bientôt, j'espère.
Merci Mario, très agréable.
Merci, c'était Stéphane Larouche. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde. Je vous retrouve pour un Mario Langlois rencontre en fin de semaine prochaine, mais entre-temps, bien sûr, les amateurs de sport, dès lundi, 18h30.